Bonjour, c'est Benjamin Muller, bienvenue dans le podcast des maternelles. Le podcast des maternelles aujourd'hui pour parler d'un sujet sensible, mais vous allez l'entendre, une bien belle histoire. Vous allez entendre Sandrine qui a fait deux enfants avec son meilleur ami. Vous allez tout comprendre et puis derrière, on commentera avec le professeur Michael Grimbert qui est gynécologue. A tout de suite.
Sandrine, bonjour.
Bonjour Agathe.
Vous êtes la maman de Pablo, 2 ans, et vous êtes enceinte d'un deuxième bébé qui va venir agrandir la famille. Terme fin octobre. Hein.
C'est ça, tic-tac, ça approche. Tic-tac.
Et ces deux enfants, vous avez décidé de les faire seuls en demandant à votre ami d'enfance, à votre meilleur ami, d'être le père. Alors voilà une très très belle histoire qu'on vous remercie par avance de venir nous raconter sur ce plateau. On va revenir en arrière. Donc vous avez 39 ans, vous décidez de faire congeler vos ovocytes dans l'espoir d'avoir un enfant plus tard parce que vous vous dites un peu que l'horloge tourne. C'était en 2013. À l'époque, ce n'était pas autorisé en France, sauf pour raisons médicales bien précises, etc. On en parlera tout à l'heure avec notre expert, les choses ont changé. Comment est-ce que vous avez fait alors ?
Alors, bon, moi j'avais toujours hésité à en parler à mon gynéco parce que j'ignorais sa position sur le sujet. Et puis j'ai pu rencontrer un gynécologue qui était militant, qui pratiquait des avortements quand c'était interdit et qui, une fois que la loi est passée, a arrêté d'en faire. Et là, pour les dons d'ovocytes, il ne trouvait pas ça normal que des femmes célibataires ne puissent pas le faire en France, dans leur pays, d'aller en Espagne, en Belgique, etc. Et donc, voilà, il contournait la loi, c'est encore interdit. Et donc, moi, j'ai pu, à ses côtés, ponctionner mes ovocytes.
Donc, vous n'en avez parlé à personne ?
Personne.
Ça veut dire qu'en plus, il y avait un traitement à faire, des piqûres, c'était pas trop
voilà.
difficile ?
Voilà, donc c'était vraiment, oui, un traitement hormonal. Donc ça a duré, j'ai eu 4 ponctions en un an, des piqûres, tout en cachette, se faire des injections dans les toilettes, etc. Pour finalement avoir 8 ovocytes,
ce
qui est bien, mais qui est quand même vraiment à 39 ans déjà tard. Et il y a des personnes de 30 ans qui ont 20 ovocytes d'un coup. Moi, il a fallu 4 fois. Parfois, il y avait un seul ovocyte. Après, donc 4 interventions, 4 anesthésies générales, etc.
Voilà, donc vous aviez vos ovocytes congelés au cas où. Vous attendiez quand même le
prince charmant. Je me sentais soulagée, tranquille, à l'abri.
Voilà. Mais bon, voilà. En même temps, vous disiez que ça serait bien que je rencontre quand même un père. Ça serait quand même l'idéal. À quel moment est-ce que justement vous avez décidé de ne plus attendre de rencontrer la bonne personne et de faire cet enfant seul ?
Donc à 42 ans, là j'ai vraiment eu un déclic. Autant avant c'était hors de question d'avoir un enfant seul. Je pense que on a peur du regard de la société, tout simplement, d'être maman solo. Et puis à 42 ans, vraiment un déclic. Et je me suis dit pourquoi pas en fait. Moi j'ai jamais souffert du célibat. Je suis quelqu'un de très indépendante. Et je me suis dit je vais le faire, je peux le faire, voilà. Mais je voulais qu'il ait un papa, ça c'était très important. Et donc j'avais toujours en tête un pacte que j'avais fait avec mon ami d'enfance, Greg. Et on avait 20 ans et un soir, voilà, on s'était dit, allez, ta place, si un jour on n'a pas d'enfant, on en fera un ensemble.
Bon, et bien ça, il y a une différence entre faire un pacte à 20 et ans à une soirée où on a bu quelques verres, et puis après, dire à son meilleur ami, by the way, tu te souviens de notre pacte d'il y a 20 ans ?
Ouais.
Alors comment est-ce que vous lui avez demandé ?
Eh bien, par texto.
Vous n'avez pas osé le faire
en fait ? Non. En fait, dès que je me suis décidée, j'ai envoyé le texto. Te souviens-tu de ce qu'on s'était dit quand on avait 20 ans ? Il m'a répondu... peut-être 2 minutes après, heureusement, il n'a pas attendu une nuit. Et il m'a dit, bien sûr, pourquoi c'est d'actualité ? Et je lui ai dit, en effet. Et il me dit, ok, tu me donnes 24 heures, on s'appelle demain. Donc je l'appelle le lendemain. Donc là, on était un peu, on ricanait un peu bêtement et on était un peu gênés. Il me dit, bon, alors raconte-moi, c'est quoi le deal ?
Le deal.
Et je lui dis, je te demande, ce qui est non négociable, c'est je veux que tu reconnaisses l'enfant. Après, c'est à toi de me dire comment tu souhaites t'impliquer dans la vie de cet enfant, de quelle place tu souhaites avoir, mais je veux que tu reconnaisses l'enfant. Et donc, lui était célibataire, gay, il m'a dit, bah, écoute, ouais, allez, on y va, et dis-moi ce que... Parce qu'à l'époque, il vivait à l'étranger. Donc, je lui ai dit, bon, bah voilà, il va falloir que tu viennes en France, faire un spermogramme, tout ça.
Et il l'a fait, donc il était motivé. Hein.
Ouais.
Alors, vous avez tenté plusieurs FIV avec vos ovocytes, oui. Le sperme de Greg, et puis vous avez pris rendez-vous avec le fameux professeur René Friedman, qu'on connaît bien dans cette émission, qui est grand spécialiste de la médecine de reproduction. C'est le père d'Amandine, qui était le premier bébé éprouvette. J'imagine que ça vous dit quelque chose. Qu'est-ce qu'il vous dit, le professeur Friedman, quand vous venez le voir, après ces échecs?
Donc là, j'ai plus d'ovocytes. Hein. Il n'y a plus rien du tout. Donc...
Ah, vous avez utilisé les 8 ovocytes?
Ouais, voilà. Donc, je vais un peu voir un magicien. J'espère voir un magicien. Et il me dit, bon, alors, votre avis, première question, vous avez 42... J'avais 43 ans et un jour. Il me dit, à votre avis, vous avez combien de chances d'être enceinte à votre âge? Et je lui dis, 5%. Il me dit, bon, c'est bien, vous êtes plutôt réaliste, c'est rare. Mais non, c'est 3%. Donc, on va se revoir dans un mois. Je vais vous donner toute une série d'examens à faire. Et on se revoit et on verra... le bilan hormonal, votre réserve ovarienne, où en est-elle? Ok, mais est-ce que vous avez déjà, il commence un peu à préparer le terrain, il me dit, est-ce que vous avez envisagé le plan B, donc, c'est-à-dire un don d'ovocytes? Je lui dis oui, donc il dit vraiment, renseignez-vous sur le sujet, réfléchissez au pays que vous pourrez choisir éventuellement. Déjà, on se retrouve dans un mois. Et là, on se revoit un mois plus tard, il a les papiers sous les yeux, et puis le coup près tombe. Il pousse un cri en voyant les taux. Et il me dit, bon, là, je comprends. Ouais. Je comprends, voilà, je comprends direct que... Il me dit, ça ne sert à rien de... On pourrait tenter, mais aucune chance que la grossesse arrive à terme. Je vais vous faire perdre votre temps, le mien. Voilà, mais j'ai quand même une bonne nouvelle pour vous, c'est que votre utérus n'a pas d'âge. Mm-hmm. Ça, c'est vraiment la phrase... dont je me souviendrai.
Oui, cet organe ne vieillit pas.
Et voilà.
On l'a appris récemment dans cette émission.
Et voilà.
Qu'est-ce que ça vous faisait, l'idée de ne pas transmettre votre patrimoine génétique? Parce que forcément, avec l'ovocyte d'une autre femme,
ouais.
C'est donc pas votre patrimoine à vous.
Oui.
C'était un sujet pour vous?
Alors, honnêtement, la première fois que j'ai appelé la clinique en Espagne, j'ai eu un petit trémolo dans la voix en disant « Bonjour, j'appelle pour un don d'ovocytes » et c'est vraiment la seule fois où ça m'a posé problème parce que, voilà, moi, je suis une grande optimiste et dès que je peux trouver une solution, alors je fais tout pour arriver au bout. Et donc là, j'avais cette chance de pouvoir porter... un enfant, donc c'était ce qui comptait le plus. Et puis après, génétiquement, en revanche, j'ai souhaité faire des tests de compatibilité génétique entre Greg et la donneuse en cas de maladie génétique, oui. Que chacun soit porteur et que l'enfant hérite de sa maladie. Voilà, c'est vraiment génétiquement, c'était ma seule obsession, mais sinon, on peut... Pablo, je lui transmets tout ce que je peux. On a beaucoup de choses à transmettre à un enfant, l'amour, des valeurs, d'éducation.
Alors, comme prévu, vous êtes très optimiste, mais le professeur Friedman vous a dit que ça serait tout à fait faisable. Ça s'est très bien passé, vous êtes tombée enceinte. Comment est-ce que Greg a accompagné votre grossesse? Est-ce qu'il était présent
Alors lui, donc il était à l'étranger à l'époque encore.
Oui.
Donc, on s'envoyait
des échographies,
des échos, etc. Bien sûr, je l'ai appelé le premier quand j'ai eu la bonne nouvelle de la grossesse. Et puis donc lui attendu que j'étais enceinte de 4 mois quand il l'a annoncé à ses parents le soir de Noël.
Ah, comme on reprécise qu'il est homosexuel, Greg, donc peut-être les parents s'attendaient pas à être
grands-parents. Ah bah pas du tout.
Ça devait être un moment très émouvant.
Ouais, donc il avait missionné sa sœur pour filmer la scène. donc il avait une photo de l'écho tout simplement et donc ils ont on a une vidéo super où déjà sa maman demande mais c'est qui? qui est la maman. Et donc là, il dit, on va faire un FaceTime avec elle. Donc moi, j'étais...
Vous les connaissez, les parents?
Oui, on se connaissait. Toutes les familles se connaissent. Et donc, on a fait un FaceTime avec nos deux familles le 24 décembre. Et puis, voilà, c'était un super moment.
Très beau moment. Ouais. C'est pas lui qui vous a accompagné à l'accouchement?
Non, parce qu'alors, bon, on a beau se connaître depuis qu'on a 20 ans, de là à partager l'intimité, mon intimité, je n'étais pas tout à fait prête. Donc, c'est ma maman qui m'a accompagnée, comme le jour de du transfert d'embryon en Espagne. Donc elle était là, je suis arrivée à terme, on a dû me le déclencher et c'était, moi j'ai adoré mon accouchement. Anna Roy qui m'accompagnait pour ma grossesse.
Oh la chance que vous, oui. La chance que vous avez.
Voilà, donc elle m'avait dit mais c'est génial l'accouchement, tu verras. Et voilà, effectivement, moi j'ai adoré.
Et la rencontre alors de Pablo avec son papa.
Alors donc Greg, comme ça je suis restée presque 24 heures à la clinique, a eu le temps de revenir de Londres. Donc, il attendait dans la salle d'attente avec sa Charlotte et ses chaussons. Et donc, une fois que Pablo est né, ma maman est allée le chercher. Et donc, c'est lui qui l'a habillé, c'est lui qui l'a... qui a fait les premiers soins, parce que c'était une pédiatre. Mais en tout cas, voilà, c'est lui qui l'a... Il a fait un pot à pot. Donc, c'était super.
Comment vous vous organisez aujourd'hui? Alors, il a quelle place,
Alors, aujourd'hui, maintenant, il vit à Paris. Il a déménagé pour être près de son fils. Et donc, il est à Paris depuis un an maintenant, donc depuis que Pablo a un an. Et il vit à 5 minutes de la maison. Il le voit 2-3 fois par semaine. Il l'emmène à la crèche. Il l'emmène au parc, il n'a pas une chambre en plus. Donc,
il n'y a pas un système de garde bien
non,
précis.
Non, parce qu'il n'y a pas cette chambre en plus, et donc il n'a pas les nuits, hein, chance.
Et là, alors du coup, vous êtes enceinte du deuxième, vous aviez quoi, des embryons congelés?
Il restait les embryons congelés avec la même donneuse, il en restait 3. Et bizarrement, après le confinement, j'ai eu envie d'un deuxième.
Et c'est un petit garçon, une petite fille, vous savez?
Encore un petit garçon.
Professeur Michael Greenberg, bonjour. Merci d'être sur le plateau de la Maison des Maternelles. Vous êtes gynécologue obstétricien, chef du service de la médecine de reproduction au CHU Antoine Béclair à Clamart et à l'hôpital Jean Verdier à Bondy. Vous dormez de temps en temps?
Alors, et en plus, il a des enfants.
5 filles.
Je ne sais pas comment il fait. Un surhomme, mesdames et messieurs. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'autoconservation des ovocytes, elle est autorisée en France, elle en passe de l'être, on va dire. Est-ce que vous conseillez à toutes les femmes qui commencent à sentir que leur horloge biologique tourne de faire congeler leur ovocyte aujourd'hui au cas où?
C'est dur de dire à toutes les femmes. Ne généraliser comme ça, c'est trop compliqué. Maintenant, c'est effectivement une opportunité intéressante qui va donner des vraies chances, mais à celles qui font ça avant 35 ans. Et à 35 ans, on ne sent pas forcément l'horloge biologique tourner. C'est ça le problème. C'est que celles qui viennent aujourd'hui en consultation viennent malheureusement un petit peu tard, 37, 38 ans, voire plus. Et à ce moment-là, on sait très bien que nos techniques marchent très mal parce que la qualité des ovules n'est pas très bonne. Donc j'aurais presque envie de dire oui, on va dire qu'une femme qui n'a pas de projet de grossesse à 32, 33 ans, où on sait que ça ne va pas se faire dans les 2-3 ans qui viennent, peut être une éventuelle bonne candidate à ce type de procédure de congélation pour se donner des chances sur plusieurs années derrière, mais ça ne donnera pas des garanties à tout le monde. Même si c'est fait dans le bon timing quand les femmes sont jeunes, ce ne sera jamais des garanties, malheureusement. Donc elles ne pourront jamais se reposer que là-dessus.
Vous avez des femmes de 25 ans qui viennent vous demander si elles peuvent congeler en se disant j'ai envie de faire une belle carrière là et...
Ouais, ça arrive, c'est relativement rare. Hein. La majorité, encore une fois, c'est plutôt un peu tard, ouais, 37-38 ans.
Mais trop tôt, c'est rare.
Mais trop tôt, c'est rare et surtout, ce n'est pas forcément logique parce que la majorité quand même de ces femmes-là, à 25 ans, en général, on n'a pas, même si on a une idée, on veut faire sa carrière, etc., les choses vont tellement vite. Il suffit de rencontrer quelqu'un à 29-30 ans et de se dire « bon, c'est le bon, on va faire un enfant ». Donc, je crois que c'est trop tôt. On risque de surmédicaliser pour rien.
On a reçu une question envoyée en vidéo pour vous par Stéphanie.
Coucou la Maison des Maternelles. J'aimerais savoir pourquoi les médecins ne font pas la prise de sang pour vérifier notre réserve ovarienne dès l'âge de 20 ans, en même temps qu'un suivi classique gynécologique, pour éviter les mauvaises surprises plus tard. Merci.
Avec une simple prise de sang, on peut voir ça?
Alors, c'est compliqué. Avec une prise de sang et une échographie, on est capable d'évaluer ce que disait cette dame, la réserve ovarienne. C'est-à-dire une évaluation indirecte de ce qui est censé être le stock restant d'ovules, puisque chez la femme, ça ne se refait pas. Donc, si on le faisait à toutes les femmes à 20 ans, En gros, ce qu'elle veut dire, c'est qu'on pourrait être capable d'identifier des femmes qui seraient déjà en altération de cette réserve et qui auraient peut-être une fenêtre de reproduction un peu plus courte. Sauf que dans les faits, ce n'est pas vrai. C'est ça le problème. C'est que ces marqueurs de réserve, aujourd'hui, ne sont pas des marqueurs de fertilité. La majorité des femmes qui ont des réserves ovariennes basses, même quand elles sont jeunes, auront leurs enfants tout à fait naturellement.
Mmh. C'est pas si simple.
Et c'est pas si simple. Mmh. Si on avait un vrai marqueur de fertilité, ce serait parfait. Le problème, c'est qu'il y a quand même un certain nombre de gynécos qui font ça, en la demandant. Et du coup, il faut quand même se rendre compte d'une annonce, de l'annonce que c'est que d'avoir une réserve ovarienne. On te dit, tu as une réserve ovarienne abaissée, tu as 25 ans. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces femmes? Elles sont super angoissées parce qu'elles voient quoi? Elles voient l'infertilité. Ouais. Elles se disent, bon, comment je fais? Ma prochaine rencontre, il faut que ce soit le bon absolument.
Elles se mettent une pression.
En fait, elles se mettent une pression et ça peut changer toute leur vie, en fait. Parce qu'un homme avec qui elles n'étaient pas forcément très bien, elles vont se dire, oui, mais j'ai plus beaucoup de temps, donc il faut que je reste avec celui-là. Alors, le problème, c'est si on trouve cette réserve ovarienne altérée, on peut se dire, bon, bah, dans ce cas-là, on leur dit de congeler. Mais ces marqueurs de réserve ovarienne disent, ces femmes-là, si elles congèlent, elles vont en congeler très peu à chaque fois. Donc, il va falloir beaucoup faire plusieurs cycles de stimulation et de congélation. Donc, c'est lourd.
Ouais, génial, ouais.
Alors, c'est lourd pour, effectivement, s'acheter peut-être une petite paix psychologique de se dire, j'ai fait le maximum si jamais je n'y arrivais pas. Je crois que c'est vraiment du cas par cas, mais je ne suis pas sûr qu'il faille le doser chez toutes les femmes. Ça me paraît trop prématuré.
On a encore une question vidéo de Margot, cette fois.
Bonjour, j'ai 32 ans, je suis en parcours PMA depuis un peu plus d'un an et j'ai donc une question par rapport à la sélection des donneuses en France. Est-ce qu'il y a moyen de permettre à un enfant issu du don donc d'accéder à l'identité de la donneuse? Parce que, ayant moi-même été toute ma vie à la recherche d'une partie de mes origines biologiques, je ne peux pas du tout m'imaginer de mettre mon enfant face à un tel questionnement, à une telle quête, sans aucune possibilité d'avoir accès à des informations.
En l'occurrence, ce n'était pas Margot, c'était Sophie Charlotte.
Bon, c'est voilà. Bien aussi. Alors, par rapport à l'accès aux origines pour les enfants, effectivement, on sait que c'est devenu un enjeu très, très important pour ces enfants qui essayent de rechercher, pour un certain nombre d'entre eux, pas pour tous les enfants, l'identité ou en tout cas des informations sur la personne qui a été, en l'occurrence, l'origine des ovocytes, l'identité de la donneuse ou du donneur. Donc, c'est une vraie problématique. Aujourd'hui, encore aujourd'hui, ça va changer dans les mois et les années qui viennent avec les nouvelles lois de bioéthique. Aujourd'hui, il n'y a pas moyen d'avoir des informations, qu'elles soient identifiantes ou non identifiantes, sur les donneurs. Donc c'est du don qui a été jusque-là complètement anonyme. La loi va changer. Les enfants pourront avoir accès dans les années qui viennent à leur majorité. Donc en tout cas, à partir du moment où on va commencer les dons, on va dire en 2022, le changement de loi va faire que à la majorité des enfants qui seront issus de ces dons de 2022 et plus, eh bien, ils auront la possibilité d'accéder à des données non identifiantes concernant les donneurs. C'est-à-dire pas le numéro de téléphone et les moyens de leur contacter.
Mais au moins quelques caractéristiques.
Quelques caractéristiques et quelques informations sur les éventuelles maladies, ouais. Les choses qu'il y aurait pu y avoir.
C'est Johan qui vous demande, comment faisons-nous, les hommes gays célibataires, pour pouvoir avoir un enfant, sachant que l'adoption reste très compliquée et la GPA interdite en France?
Non, pour l'instant, on va dire que ça, c'est pas... La GPA, elle est aujourd'hui pas pensable en France, en tout cas pas avant, au minimum, les prochaines lois de bioéthique, et je pense que ça passera même pas. C'est très, très compliqué. Donc, il faut se tourner vers l'étranger, essayer de passer par une GPA, ça coûte énormément d'argent. C'est possible, hein. Mais après, il y a toutes les problématiques de reconnaissance, d'adoption de l'enfant. Enfin, c'est un parcours cauchemardesque.
Même si les choses, j'ai l'impression, s'organisent un tout petit peu pour accompagner les familles qui font ça, mais ce sont des familles qui ont déjà des budgets colossaux.
Il faut avoir les moyens. C'est un choix et qui est un choix qui est très, très onéreux. Donc,
Et des hommes gays célibataires qui font des enfants avec des amis, comme on a pu un petit peu en parler tout à l'heure, vous en voyez, ça existe ou ça reste à la marge?
Alors ça, on en voit, ça on en voit, officiellement on ne les voit pas, on les voit en mode couple, nous. Mmh. Donc après, ils nous racontent... certains le disent, je pense que certains ne le disent pas parce qu'ils ont peur d'être jugés ou peur qu'on leur dise « ah ben non, je ne peux pas okay. ». Moi, pour moi, c'est un couple officiel qui soit... peu importe. Moi, je les traite comme un couple et donc j'ai pas de problème, je suis dans le cadre de ce qu'on peut faire. Et oui, on en a...
C'est presque le plus simple pour répondre à sa question.
En fait, quand les femmes célibataires ont, entre guillemets, leur donneur, c'est sûrement très simple à mettre en place. Il n'y a pas de délai puisque ça se fait en mode couple hétéro finalement. Le problème, c'est que faut voir comment est dealée l'histoire avant, parce que c'est toujours plus simple, en fait, quelque part, d'avoir accès à un donneur. Le donneur ne va rien demander à personne. Alors que cette personne, ce pote ou je ne sais quoi, de cette personne dite de confiance à un moment, eh bien, si ça se met à être déconnant à une certaine phase du projet, ça peut devenir très, très compliqué. Ouais. Et la femme est quand même redevable vis-à-vis de cette personne-là. Sauf si les deux sont dans un projet avec une envie et puis ils s'arrangent, mais ce n'est pas simple.
Et donc ça, vous posez des questions pour savoir justement l'état de... où c'est compliqué pour vous aussi ?
C'est dur de... Alors, j'essaie de poser quelques questions parce que je me dis, je suis tout à fait d'accord pour aider, être très aidant par rapport à beaucoup de monde, mais je veux me dire que je le fais dans des conditions que j'estime être les bonnes. Après, je ne vais pas leur faire un interrogatoire sur connaître toute leur vie. J'essaye de savoir un petit peu, puis je m'arrête là. Si le projet m'a l'air cohérent, ils ont compris que ça pouvait être problématique, parce que je leur dis, en fait. Je leur dis, vous savez qu'à un moment, vous êtes dépendant l'un de l'autre, c'est quand même vous avez un pacte, mais ça peut être un peu un nid en merde, quelque part. Je préfère que ce soit dit, au moins ils l'ont entendu, et après, s'ils sont partants, on y va. Je vais pas aller plus loin que ça.
Faire un enfant avec quelqu'un, de toute façon, c'est une grosse décision, quoi.
Mais de toute façon, c'est une problématique quotidienne, parce que même quand ils viennent en couple, mariés, je ne sais quoi... on ne sait pas du tout ce qui va se passer une fois que l'enfant sera là ou que la grossesse sera là.
Alors, on a une question de Sarah qui vous demande, en dehors de l'âge, qu'est-ce qui peut diminuer la fertilité d'une femme et y a-t-il un moyen de la booster ?
Alors, il y a pas mal de choses qui peuvent être impactantes sur la fertilité féminine. L'âge est effectivement le marqueur principal. La fertilité baisse à partir de l'âge de 30 ans et ne fait que de baisser et ça s'accélère à partir de 35 ans. Donc
c'est
certain. Et vraiment, à partir de 35-37, ça décline sévèrement.
C'est terrible
d'entendre
ça.
C'est terrible, je sais. Mais c'est, malheureusement, la physiologie humaine, ce n'est pas adapté à la société moderne. Mais c'est comme ça. Après, il y a tout un tas d'autres facteurs. C'est vrai que les infections sexuellement transmissibles peuvent boucher les trompes et être à l'origine d'infertilité. On peut avoir des problèmes au niveau de l'utérus qui peuvent être des pathologies acquises. On en a, les femmes qui ont des fibromes, c'est très fréquent chez les femmes noires, dans plus de 50% des cas. Ça peut diminuer la fertilité, en particulier si elles sont un petit peu plus âgées. Et puis après, il y a tout l'environnement. Le tabac, c'est dramatique. Ça fait vraiment baisser la fertilité, ça diminue la qualité et la quantité des ovules. C'est à bannir absolument.
D'accord.
L'exposition à des pesticides, tout ce qu'il peut y avoir dans l'environnement qui peut être délétère, il y a des professions qui sont à risque, et ben ça, quand on y est exposé, il faut essayer de s'en extraire le plus possible.
Et donc pour booster cette fertilité ?
Et ben booster, c'est déjà s'extraire des environnements qui ne sont pas bons ou arrêter le tabac si on fume, par exemple. Et puis après, faire rajeunir les ovaires, on ne sait pas faire encore. Donc, effectivement, là...
Parce qu'il y a un business du boostage de fertilité.
Ouais.
Donc, c'est pipeau, ça ?
C'est pipeau. Okay. C'est archi-pipeau.
Il n'y a rien à faire à manger,
non, c'est des injections qu'on appelle le PRP. En fait, ils prennent des facteurs de croissance dans le sang de la personne. Ils sélectionnent des facteurs de croissance qu'ils remettent dans les ovaires pour rajeunir le fonctionnement ovarien, mais c'est pipeau. Ah. Aujourd'hui, le seul moyen qu'on va avoir pour essayer de lutter contre cet âge
qui défile... Saine.
C'est avoir une vie saine et c'est peut-être congeler ses ovules, parce qu'au moins on fige le temps.
Quel est le budget total pour une PMA ? On a parlé de la GPA. La PMA aujourd'hui, c'est 100% remboursé, pris en charge.
C'est pris en charge par la Sécurité sociale intégralement. Ça va l'être pour les femmes célibataires et les femmes en couple aussi.
Oui, la loi a été votée, le décret n'est pas encore appliqué, mais c'est d'ici quelques jours, semaines.
Là, c'est dans les jours. En tout cas, ce sera d'après Olivier Véran, avant la fin du mois de septembre.
Vive la France ! C'est important. Ailleurs, c'est souvent très cher.
Non, on a beaucoup de chance par rapport à ça.
Ça coûte combien, la Sécu ?
On va dire à peu près entre 5 et 6 000 euros une FIV. Et puis, malheureusement, il n'en faut pas toujours qu'une.
Charline vous demande, est-ce qu'il est possible de faire profiter de ses ovocytes à une personne de son entourage ?
Alors, le don en France est un don anonyme. Donc, en fait, on ne peut pas les donner à quelqu'un.
On ne peut pas choisir.
Sauf qu'il y a des listes d'attente. Et donc, le fait d'amener quelqu'un ou d'avoir quelqu'un qui va donner, on ne va pas donner pour la personne qu'on connaît, on va donner pour la banque, mais ça va permettre à la personne qui a amené cette donneuse d'avancer sur la liste d'attente.
Mais est-ce qu'on peut être sûr que ça va être elle ?
Non, justement, ça ne peut pas être elle. On ne peut pas donner à quelqu'un qu'on connaît.
Okay.
Donc, la personne va donner pour la banque, mais ça va permettre à celle qui a amené cette donneuse d'avancer sur une liste d'attente de 2 ans. Et on va lui réduire ses délais à 9 mois.
Ah, d'accord.
Bon. Mais elle ne donnera pas pour la personne qu'elle connaît. Ça, aujourd'hui, c'est interdit. Les rares
pays
qui le font.
Non,
C'est sûrement mieux parce qu'après, la place des... Alors, on peut concevoir... Ça s'entend, hein, cette envie de connaître, en fait, de ne pas être dans l'inconnu, parce que le don anonyme, on ne sait pas du tout. Donc, on se fait des films, on extrapole sur beaucoup de choses. Le fait de se dire, c'est une amie, c'est la famille, c'est ma sœur, parce que ça va loin.
Oui, hein. Oui, bien sûr.
Au moins, ça reste dans la famille. C'est le truc qui revient régulièrement, ou vers quelqu'un que je connais, au moins je connais l'histoire. Le problème, c'est qu'après, le positionnement des personnes, comment ils se positionnent par rapport à cet enfant, qu'est-ce qu'on lui dit ? Comment il voit, si c'est la sœur qui a donné, si c'est la sœur qui a donné, qui est la mère, qui est la tante, ça devient d'autres problématiques. Et en fait, l'immense majorité des pays ont arrêté ce type de don.
D'accord.
Il y a une question que je ne comprends pas, mais vous allez peut-être la comprendre. Pourquoi la France n'autorise-t-elle pas l'achat des paillettes auprès des banques européennes ? C'est quoi les paillettes ?
Alors, les paillettes, c'est le conditionnement des paillettes. C'est comme une petite paille. Et les spermatozoïdes
Pourquoi alors la France n'autorise pas ?
Ça s'explique pourquoi elle ne l'autorise pas, ce n'est pas forcément justifié. Aujourd'hui, on a une pénurie de donneurs de sperme et on va continuer à l'avoir, on le sait. Donc on va avoir des listes d'attente pour les femmes qui ont besoin d'un don de sperme, que ce soit pour les projets en solo ou les projets…
En plus, avec l'ouverture.
Avec l'ouverture, ça va. Il y a déjà des délais d'attente aujourd'hui, de 12 mois en moyenne, pour avoir un don de sperme pour les couples hétérosexuels dont le conjoint n'a pas de spermato. Donc en mettant dans la file d'attente les femmes en couple, les femmes célibataires, on va rallonger ces délais. Or, dans la majorité des pays, comment ils ont compensé ces problématiques de file d'attente ? En s'alimentant auprès des banques de sperme étrangères, le Danemark notamment, qui a des gros business de banques de sperme, qui envoient un peu partout dans le monde, qui fournissent les différents centres. Sauf que ce sont des dons pour lesquels les donneurs ont été dédommagés, rémunérés, si vous préférez.
Ah, et ça, éthiquement,
France, tout don doit être gratuit.
Donc, c'est le seul point qui bloque ?
C'est le point bloquant, finalement, puisqu'on n'est pas dans le cadre du don tel qu'on peut le faire. Pourtant, d'un point de vue sanitaire, c'est parfaitement safe. Il n'y a pas de problème. Les banques travaillent très, très bien. Donc, il n'y a aucun doute là-dessus. Il y a des suivis. S'il y a des malformations sur les enfants nés, elles recontactent. C'est très, très bien fait. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que c'est des donneurs dédommagés.
On a une question de Marlène qui est un peu technique. Là, moi non plus, je ne comprends pas. Bonjour, je voudrais savoir quelle est la différence entre la FIV et la FIV ISCI. Ne dites pas que vous savez ce que c'est.
Ah, donc je ne sais pas ce que c'est.
Ça suffit maintenant.
Vous savez, j'espère.
Oui, j'ai compris la question.
Et quels sont les critères de choix d'une technique par rapport à l'autre ? Donc, visiblement, ce sont deux techniques.
Alors, en fait, c'est une technique qui est la fécondation in vitro, qui est le fait de mettre les spermatozoïdes au contact des ovocytes pour faire un embryon.
De provoquer la rencontre ?
Voilà, ça, c'est la FIV. La fécondation in vitro, c'est ça. Oui, ça se fait au laboratoire. Il y a la FIV conventionnelle où, en fait, on va prendre un ovule, on va mettre une gouttelette avec des spermatozoïdes préparés. Il y a plusieurs milliers de spermatozoïdes et ils vont se débrouiller entre eux pour que le meilleur gagne.
Okay.
Et chez les hommes qui ont très très peu de spermatozoïdes ou quand il y a un échec de la fécondation, il n'y a pas d'embryon avec ces FIV conventionnelles, on peut faire des FIV qu'on appelle ICSI, c'est-à-dire qu'on va prendre un spermatozoïde isolément et on va le rentrer à l'intérieur de l'ovule pour forcer entre guillemets la fécondation.
Ouais.
Donc ça, c'est plutôt les hommes qui ont très peu de spermatozoïdes ou les échecs, on va dire, de fécondation in vitro classique.
Voilà, merci au professeur Grimbert pour l'analyse et surtout merci à Sandrine d'être venue nous raconter sa très belle histoire. On se retrouve demain pour un nouvel épisode du podcast des maternelles. D'ici là, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire sur ce podcast sur les différentes plateformes. À tout le monde, à demain j'espère.